Bienvenue sur Junko. Je suis Florence Dadière, future coach professionnelle et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Ici, vous entendrez tout ce qu'il vous faut pour vous inspirer, vous autoriser à penser que tout est imaginable et pourquoi pas même vous autoriser à oser. Votre soutien est le seul et meilleur moyen de faire grandir Junko. Alors n'attendez plus, allez nous mettre un joli avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et venez nous suivre sur le compte Instagram Junko-coaching. Allez maintenant, tenez-vous prêts, installez-vous, c'est parti pour le prochain épisode de Junko. Bienvenue sur le nouvel épisode de Junko. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le plus célèbre ostréiculteur de France, Joël Dupuche. Joël, je vous ai invité aujourd'hui pour ce que vous dégagez, une force tranquille, un charisme, une présence et surtout cette authenticité, moi, qui m'impressionne et que j'admire beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas de parasite, qu'il n'y a pas de superflu, qu'il n'y a pas de jeu de rôle. Quand vous prenez la parole, c'est sincère. On a accès directement à qui vous êtes, à votre cœur. Et voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui.
C'est super gentil.
Alors déjà, Joël, de quoi vous avez besoin pour qu'on passe un bon moment ensemble ?
De sincérité, ça m'ira bien.
Ok, top. Donc on vous connaît comme ostréiculteur, comme acteur, vous avez fait énormément de choses. En guise de présentation, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes aujourd'hui ?
Ben, je suis toujours un ostréiculteur parce que mon activité principale, c'est vraiment l'ostréiculture. Et puis après, je dirais que je suis un aventurier de la vie, mais je dirais un aventureux de la vie, parce que en fait, j'adore les expériences nouvelles, j'adore les terrains inconnus, les endroits qui sont pas défrichés. En fait, j'aime me perdre. Il y a une très belle phrase que je crois j'ai dit l'autre soir d'un rabbin qui dit « Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, tu pourrais ne pas t'égarer. » Et moi, j'adore m'égarer. Et je trouve que dans la vie, quand on s'égare, on découvre les autres, on découvre d'autres choses, on découvre d'autres endroits. Et donc, j'aime me perdre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis aventureux. Parce que l'aventurier, c'est comme Indiana Jones. À la fin, ça finit toujours bien. Aventureux, des fois, le final est moins beau que ce qu'on aurait espéré. Mais le chemin a toujours été beau. C'est ça qui est intéressant.
Et qu'est-ce que ça vous représente dans votre vie, le fait d'oser, justement ?
Ben, ça représente tout. Depuis tout petit, ma grand-mère, quand j'étais petit, elle me disait « Toi, t'es fou, on ne sait pas ce que tu peux faire. » Mais en fait, cette femme avait du discernement. Et moi, je suis content d'être un peu fou et d'être... de pas être orthodoxe, de pas être dans les clous. Hein. Je respecte l'ordre, moi, mais je suis très ami avec les militaires. Et les militaires, c'est une hiérarchie, c'est très hiérarchisé, c'est une structure pyramidale avec un chef et où il faut se plier aux règles. Donc à partir du moment où je choisis de m'engager, je joue avec les règles de l'engagement. Mais si je ne suis pas engagé et que je ne suis pas tenu à des règles, bah j'adore me promener, voilà, j'adore me laisser porter par le courant, voilà.
Et comment vous l'entretenez cette folie là ?
Alors, j'ai aucun travail, il y a aucune.
C'est naturel.
Ouais, il y a pas de démarche. Je pense que c'est inhérent à ma personnalité et je pense qu'on a après sûrement à mon éducation, j'ai été élevé sans peur. On m'a jamais créé de peur imaginaire. On m'a jamais dit attention, fais pas ça, il va t'arriver. Donc moi j'ai eu des peurs réelles. Je suis tombé sur un serpent. Me suis cassé la gueule d'un bateau. Donc j'ai eu des peurs, mais c'était toujours des vraies peurs. J'ai zéro peur imaginaire, zéro. L'autre soir, puisqu'on s'est croisé à Rennes, c'était la première fois que je montais sur scène comme ça. J'avais aucune appréhension, vraiment. De manière qu'on rencontre une personne ou qu'on en rencontre mille, c'est une rencontre. Et donc, voilà. Après, ce qui peut faire impression, c'est la masse. Se dire, ouh là là, il y a une masse, mais là, j'étais pas là pour me battre avec vous. J'étais là pour vous parler, donc voilà.
Donc, première fois que vous montiez sur scène la semaine dernière.
J'avais fait un TEDx de 13 minutes,
ouais.
De 12 minutes. Mais là, je sais pas, j'ai dû faire entre 30 et 45 minutes. C'était la première fois que je faisais ce genre d'exercice devant autant de personnes dans un théâtre, sur un truc organisé, où les gens m'attendaient pour une prestation. Donc, tu as dit que ça, a priori, personne ne vous attend. Vous racontez ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc là, voilà, c'était une première expérience, mais où j'y étais très serein. J'avais essayé de structurer, j'avais mon ordinateur et moi, je me suis dit, bon, mes grandes lignes, je les connais, puisque je raconte ma vie globalement. Mais je m'étais dit, à un moment, si t'as un trou, tu vas peut-être... Puis en fait, j'ai jamais été le voir. J'ai passé un bon moment à votre compagnie, quoi. C'était ça.
Et comment ça se passe quand vous faites justement... Donc, vous avez fait beaucoup de choses nouvelles, en fait, dans votre vie, si je comprends bien.
Mais c'est ce qui m'amuse.
Ouais, c'est ça qui vous amuse.
C'est la découverte. Je pense qu'on pourrait avoir une vie, je sais pas, on pourrait être super rangé. On est prédisposé à être mis dans une case, dans une boîte et à vivre toute sa vie comme ça. Après, bon, il y a des gens à qui ça convient, parce qu'il y a des gens qui sont rassurés par l'orthodoxie, par le fait que tout soit bien en place, tout soit bien rangé. Moi, ça me stresse quand tout est bien rangé. Donc, il faut que je me casse dans le bordel. J'aime bien le bordel, en fait.
D'accord. Vous avez monté pas mal d'entreprises. Hein, vous avez fait pas mal d'aventures entrepreneuriales. Vous avez déjà été salarié, d'ailleurs?
Ouais.
Ouais, OK. Et ça, c'est justement de rentrer dans ce cadre-là du salariat.
Ça s'est toujours très bien passé. En fait, j'étais salarié à la Martinique. Là, je suis salarié de ma société. Mm-hmm. Moi, salarié ou entrepreneur, pour moi, je fais pas de différence parce que quand j'étais salarié, je bossais comme pour moi. Je pense qu'après, c'est un état d'esprit.
Ah oui.
Et je pense qu'il y a des salariés qui sont prêts à monter des entreprises alors qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas la envie, qu'ils peuvent avoir la peur de le faire parce que la femme, les enfants, les crédits, le truc, et de pas oser se foutre à l'eau. Mais je pense qu'il y a plein de salariés qui bossent dans des entreprises comme s'ils étaient leur patron. Et, ça, il y a un directeur d'exploitation dans des gros groupes. Moi, j'ai siégé à la Chambre de commerce de Bordeaux. On avait des directeurs de sites. Mais c'était même pour des très grosses entreprises. De très grosses entreprises, un directeur de site, il ne décide pas de la stratégie. Il ne décide pas des financements. En fait, c'est un DRH qui s'occupe de la paix sociale dans l'endroit et qui essaye de mettre en place des stratégies données par le siège. Mais ça n'est pas un stratège. Et il fonctionne comme un chef d'entreprise. Dans sa tête, à lui, c'est un chef d'entreprise. Mais heureusement, d'ailleurs. Donc, c'est un directeur d'entreprise. Donc, moi, le salarié, directeur... Je pense que il y a des gens qui ont une mentalité qui font que si on fait, on fait. Et on va au bout des choses. Et puis, il y en a d'autres... c'est l'histoire... Vous connaissez l'histoire des trois tailleurs de pierre? Il y a trois tailleurs de pierre qui sont assis. Ils font le même travail. Les trois font le même travail. Ils ont une pierre, un marteau, un burin, et ils taillent une pierre. Ils font exactement le même job assis côte à côte. Le premier, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je travaille. Le deuxième, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je taille une pierre. Et le troisième, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je bâtis une cathédrale. Et ils font la même chose. La différence, c'est que le troisième, ça va être un mec très heureux. Parce que c'est pas ce qu'il fait qui est important. C'est la vision, c'est le dessin de ce qu'il va faire et pourquoi il le fait. Et que ça rend toutes les tâches, même les plus pénibles, ça les rend belles.
Ouais.
Parce qu'on est inscrit avec une espérance de réalisation et qu'on n'est pas comme un con à faire son truc, juste dire je prends mon salaire et je me casse. Parce que ça, il y a des entrepreneurs qui essayent de fonctionner comme ça, qui ne veulent que le blé. Il y a Townsend, un mec qui était, je pense, le PDG d'Avis ou le créateur, qui disait l'argent n'est que le sous-produit de la réussite. Et la réussite, c'est la réalisation de sa vie, c'est la réalisation de ses rêves. Ça, c'est réussir. C'est pas gagner de l'argent, réussir. Parce qu'on peut être un milliardaire et con comme une malle et s'ennuyer à mourir. Et d'ailleurs, j'en connais beaucoup qui s'ennuient, qui n'ont pas d'amis. Alors, ils sont blindés, hein, ils sont gavés, ils en ont jusqu'à avoir des oreilles. Mais ils sont comme des cons, quoi, voilà. Alors, ceux-là, ils me font vraiment pas rêver. Ça, c'est de... Je les plains, en fait. J'ai plus de compassion pour eux que d'admiration.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est presque triste, quoi.
Voilà, c'est un... Et donc, le plaisir, c'est de faire un truc qui nous satisfait. Mais quel que soit notre statut, qu'on soit salarié, qu'on soit PDG, c'est notre aspiration qui est jolie. Et si le matin, on se lève en disant « Putain, je vais faire un truc génial aujourd'hui », et quel que soit, pour qu'on travaille pour soi ou pour les autres, c'est pareil. je vais faire un truc génial, c'est moi qui m'engage.
Ok.
Voilà.
Super, super intéressant. Quel rêve vous avez réalisé, vous, Joël ?
Ben, pour tous ceux que j'ai eus, bon, j'aurais aimé voler sans avion, comme ça, comme Superman. Mais non, parce que quand j'étais petit, je lisais des bandes dessinées, j'aurais aimé être un super-héros comme cela. Mais non, je pense que j'ai à peu près été au bout de toutes mes aspirations. Je ne pense pas avoir vu un train passer que j'ai eu envie de prendre, que j'ai pas pris.
Ouais.
Et bon, souvent, les arrivées étaient pas terribles, hein, parce que c'est comme quand on fait un choix, hein, des fois on fait le mauvais choix. Mais les voyages ont toujours été beaux, et ce qui est important, c'est ce qu'on vit, c'est pas ce qu'on gagne.
Vous avez eu des déceptions, du coup? Comment vous gérez ça, les déceptions?
Non, j'ai eu des échecs. J'ai eu des échecs fabuleux. J'ai fermé une entreprise familiale ça faisait 7 générations. C'est moi qui l'ai fermé. C'est moi qui ai mis la clé sous la porte et qui ai bouclé. C'est moi qui ai arrêté l'histoire. Je fermais pas une entreprise. J'arrêtais une histoire. Donc finalement, oui, j'ai eu plein de déceptions, mais on s'en remet. Et puis quand on se remet de tout. Il suffit de vouloir. J'avais une mère extraordinaire qui disait, on a 2 bras, 2 jambes, 1 tête, le monde nous appartient. Et si on veut, on peut. Et ben voilà, je pense que si on veut, on peut.
Donc vous êtes resté dans ce guide-là de vous dire on y va, je le sens, ça me fait vibrer, ça me fait plaisir.
Et demain sera beau. Mmh. J'ai des potes qui sont toujours inquiets de ce qui va se passer. Putain, mais je dis, mais demain sera beau. Arrête déjà de le noircir avant d'y être. Moi, la vie, c'est de l'espérance. C'est toujours de la découverte. C'est que positif. Ça ne peut être que positif.
Vous vous rendez compte quand même, Joël, que c'est un état d'esprit que peu de gens ont. Et que vous avez peut-être un énorme rôle à jouer pour ces personnes qui justement ont du mal à, qui ont peut-être pas eu la même éducation, qui ont pas eu peut-être le même discours d'une maman qui est hyper encourageante et hyper stimulante quelque part, et qui a quelque chose avec ça quand même. Vous rendez bien compte que vous avez quelque chose d'assez puissant dans votre discours.
Alors, je pense pas. Je pense pas du tout. C'est un peu gourou, là, ce que vous dites. Non, mais oui, mais c'est...
Vous voyez ce que je veux dire,
mais
quoi.
Je pense pas du tout ça. Je pense d'abord, il faut parler beaucoup avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent... Alors, il y a un truc, quand vous me parlez tout à l'heure, je pensais à 2 trucs. Vous voyez, quand il y a eu le Covid qui est tombé, au début, on vous a dit, attention, ne sortez pas, parce que vous allez mourir. Donc, on a joué sur la peur. Et après, comme ça suffisait pas, on vous a dit, attention, ne sortez pas parce que vous allez tuer les autres. Vous allez les rendre malades. Là, on a joué sur la culpabilité. Et en fait, on a 2 choses dans la vie qui nous inhibent, mais totalement. C'est la peur et le sentiment de culpabilité. Faut arrêter avec ça. Et quand vous ouvrez la presse le matin, il y a que de ça. Il y a que de la peur. Mais ça n'est pas après la presse. C'est que globalement, les gens sont demandeurs de ça, ils ont envie de se faire peur. Et je pense que très souvent, la vie que peuvent avoir certains est justement tellement monotone qu'ils vont chercher ailleurs de l'émotion. Sauf que l'émotion qu'on leur vend, c'est pas de l'émotion positive, c'est de l'émotion négative. Et que s'ils allaient chercher, ce matin, j'ai fait un lever de soleil et 2 photos du soleil. Parce que moi, ça, c'est un cadeau. Et quand je regarde ça, je pourrais regarder une merde de chien sur la plage. Et puis, je pourrais photographier que les merdes de chien sur la plage. C'est au même endroit, c'est le même jour, c'est en même temps. Mais moi, mon choix, c'est plutôt de photographier le soleil que de photographier la merde du chien qui a chié sur la plage et où je vais dire, regardez quand même ce con de chien qui a chié sur ma plage. Non, je préfère regarder mon lever de soleil et oublier la merde de chien. Et globalement, je pense que un des secrets du bonheur, c'est regarder ce qui est beau et pas se polariser sur ce qui est négatif. J'ai une personne que j'aime beaucoup qui des fois rentre et me dit « Oh putain, j'ai passé une journée de merde ». J'y mets. Et quand il me raconte sa journée de merde, je dis, mais c'est la même journée de merde qu'hier. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu rentres dans un bureau, t'as une gueule de con à droite et t'as des mecs sympas à gauche. Si quand le matin t'arrives, tu regardes la gueule de con, tu te conditionnes à être de mauvaise humeur toute la journée. Si quand tu rentres, tu vois que les mecs sympas, tu vas passer une belle journée. Donc, il y a des trucs, ça sert à rien de les regarder. C'est inhibant, c'est déprimant. Mais regardons ce qui est bon. Concentrons notre acuité pour voir ce qu'il y a de joli chez les personnes et dans les choses. Voilà, c'est pas, ouais, regardez le lever de soleil, oubliez la merde de chien. Voilà, c'est en,
C'est une belle conclusion.
Non, mais c'est vrai.
Mais c'est clair.
Je crois que c'est Confucius qui disait, pour qu'un éléphant n'existe pas, il suffit de ne pas le regarder.
Ouais, mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Faut garder ça, ces phrases, ça, c'est vrai que ça peut permettre de garder un petit cap quand des fois le quotidien, effectivement.
Oui. Alors c'est marrant parce que moi j'aime beaucoup les aphorismes et les proverbes. Il y a des gens très intellectuels, ils disent, ouais, mais c'est de la connerie, c'est réducteur. Eh ben non, c'est pas réducteur, c'est réduit. C'est-à-dire qu'à un moment, depuis quelques siècles, il y a des gens qui ont une pensée et ils ont réussi à la réduire et à la formaliser en quelques mots pour la rendre audible par tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'adore la musique et on dit qu'en musique, c'est la bonne note au bon moment. Il y a plein de bons musiciens qui ont de la technique. La technique, ça permet de faire beaucoup de notes et de jouer très vite. Mais parfois, la technique, ça sert à rien parce qu'on n'est pas là pour que le mec nous montre sa technique. On est là pour qu'il utilise sa technique au service de l'art. Et le service de l'art, c'est toujours minimaliste. Plus on réduit, plus c'est beau. Voilà.
Dans votre parcours de professionnel, donc vous avez commencé quand vous avez quitté le bassin. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé?
J'ai toujours commencé. Là, j'ai une photo sur mon bureau. Je dois avoir 13 ans.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand on vit dans les milieux agricoles et nos amis paysans que l'on voit aujourd'hui, quand on est fils de paysan ou fils d'agriculteur ou fils d'ostriculteur, dès qu'on a 5 ans, on travaille. Alors, on ne travaille pas sur des choses éreintantes, mais on participe à l'activité globale du milieu. Et l'activité globale du milieu, dans le milieu agricole, c'est l'agriculture. Donc, on travaille là-dedans depuis qu'on est... Enfin, on travaille. On participe à l'action depuis que l'on est. Ça démarre tout petit, mais vraiment tout petit. Et donc, j'ai toujours vécu là-dedans. Mon lycée, j'ai plutôt été... je crois que j'avais quelques facilités à apprendre, mais il fallait que ce que j'apprenne m'intéresse. C'est-à-dire que globalement, si vous me filez un rapport de 40 pages qui me passionne, je peux le lire une fois et vous faire une conférence dessus. Si vous me faites lire 200 fois un truc qui m'intéresse pas, je vous sortirai pas un mot dessus parce que l'éléphant n'existe plus. Voilà, c'est je me passionne pour ce qui m'intéresse et je me détache beaucoup de ce qui m'intéresse pas. Et donc j'en étais où? Sur quoi on parlait?
Sur le lycée et ensuite.
Sur le lycée, oui, c'est ça. Donc le lycée, j'ai pas eu des résultats très brillants. J'ai fait beaucoup d'établissements. Je restais peu, et puis je suis parti à l'armée parce que finalement j'avais raté l'examen, j'étais pas là, j'étais en bateau quand l'examen s'est passé, donc c'est pour vous dire la concentration que j'avais sur le sujet.
Quoi, quel examen? Le bac? Vous étiez sur un bateau?
Non, je devais passer mon BEP d'électronique.
Ouais.
En fait, j'étais parti, moi j'ai pas redoublé, j'ai rétrogradé. C'est-à-dire que j'ai fait troisième, seconde, première.
Ok.
Ils m'ont renvoyé après la troisième, donc j'ai rétrogradé 2 ans. Et donc, pour le coup, j'avais des facilités parce que c'était, en termes de niveau, j'avais acquis d'autres niveaux et donc je faisais tout ça facilement. Il y avait un passage obligé qui était de passer un examen. Mais comme moi, ça me préoccupait peu, ce jour-là, j'étais en bateau et donc je n'ai pas pu aller passer l'examen. Donc, j'ai cherché un job de poids lourd, un job de chauffeur poids lourd puisque j'avais mon permis et pour pas prendre une branlée par mon père. Je me suis dit, je vais rentrer, comme je me suis trompé de date, il va me désinguer. Et en fait, quand je l'ai appelé en lui disant, ça y est, j'ai trouvé du boulot, t'inquiète pas, j'ai raté l'examen, mais hein, il m'a dit, écoute, tu pars à l'armée, puis tu viens travailler avec nous, et puis voilà. Donc, je suis parti à l'armée, où là, j'ai découvert un univers complètement différent du mien, de gens qui arrivaient de partout, qui vivaient pas comme moi, qui avaient pas les mêmes valeurs, pas la même culture, pas les mêmes codes, et que je ne pouvais regarder, et qui me ressemblaient, donc, quand j'étais à l'armée, puisqu'on avait tous le même uniforme, la même coupe de cheveux, le même look, et qu'on marchait tous au pas les uns avec les autres, et qu'on chantait tous ensemble, donc globalement, on était devenus une communauté. Mmh. Et dans cette communauté, j'ai découvert du feeling avec des gens qui, quand on a pris le temps de parler de ce qu'on était avant, en fait, ça aurait été mes voisins, j'aurais jamais parlé. Parce que dès que la différence s'exprime, d'abord, on reste un peu enfermé dans son monde qu'on connaît, qui nous rassure, parce que c'est une espèce de cocon, et dont on sort pas. Là, on était obligé d'en sortir, puisqu'on était confronté à une masse de gens différents de nous, mais habillés comme nous, donc ils nous ressemblaient. Rassurant.
Et donc après service militaire, donc une...
Après service, je suis rentré dans l'activité huître, là, ouais. J'ai bossé en vraiment... Là, j'ai bossé comme ouvrier ostréicole pendant 2 ans ou 3 ans où c'était rude physiquement, c'était rude, il faisait froid. Enfin, on travaillait, on avait une entreprise où on était une douzaine d'hommes dans l'entreprise plus les femmes qui étaient à terre. Mais donc sur les parcs à huîtres, on partait avec l'équipage de gars. Et c'était rude, quoi. C'était vraiment du travail physique. On trimballait des tonnes d'huîtres. On travaillait à la fourche. On était dans l'eau le matin à 5 heures. Qu'il pleuve, qu'il gèle, qu'il vente, on était sur l'eau. Enfin, c'était... Là, ça a vraiment été une période rude physiquement, mais on survit. Hein. On survit très bien. Hein. J'étais en pleine forme physique. J'étais au top. Et fatigué, certes. Éreinté, même, je dirais. J'ai connu à cette période-là, quand on dit avoir froid dans les os, moi j'ai eu froid aux os. C'est on partait travailler, donc on n'avait pas de vêtements techniques comme il y a aujourd'hui. Là aujourd'hui j'ai une polaire, moi j'ai une polaire un pur vert. Si j'avais en avait été il y a 10 ans, j'aurais 3 t-shirts, une chemise et 2 pulls verts et pour pas avoir froid. Mmh. Là aujourd'hui on est super technique, donc léger, donc pas de transpiration. À l'époque, on partait, on mettait 2 t-shirts, 3 t-shirts. Sauf que quand on avait transpiré, c'était trempe, on avait le lever. Et quand on revenait au froid et quand il fait négatif, c'était affreux, quoi. C'était, voilà, on souffrait physiquement. Mm. Mais bon, de surpasser cette souffrance, c'était une espèce de satisfaction qui nous rendait tous heureux. Parce que même les salariés de base chez moi, voilà, quand on avait fini, on avait la satisfaction du travail accompli dans des conditions difficiles. Donc, c'est un peu les coulisses de l'exploit pour nous tous les jours. Voilà, on faisait des choses, voilà, c'est aventurier.
Et donc là, vous êtes avec vos parents ?
Ouais, je bosse en famille, là, ouais, je bosse dans un groupe familial, père, mère, sœur, frère, grand-mère, grand-père. Donc, et tout, et puis on a eu, à l'époque, on doit avoir 30 ou 40 salariés.
Ah oui,
donc voilà, je suis là-dedans. Là après, je pars parce qu'on a des problèmes de commercialisation. Donc je me déguise en BRP, j'essaye d'aller vendre mes huîtres à des restaurants. Après, je trouve un magasin à racheter, qu'on rachète donc à Bordeaux, où on fait qui est un peu la Rolls des magasins d'huîtres de Bordeaux. Donc on développe activement cette activité, enfin, ce magasin. Après, de ce magasin, on monte une dégustation d'huîtres, donc un concept de bistrot d'huîtres, et on développe ça bien avec un autre magasin dans un centre commercial. C'est le début, c'est vraiment le début des centres commerciaux où globalement tous les chefs d'entreprise performants devaient aller s'installer dans les centres commerciaux. C'est comme ça. Donc voilà, on a fait un magasin dans un centre commercial, mais qui m'a servi parce qu'en fait, j'avais fait un magasin pur de vente. Et comme ça marchait pas, il a fallu que j'adapte ce magasin. Donc du coup, j'ai mis un comptoir devant. Sur ce comptoir, j'ai commencé à faire des dégustations et puis à faire beaucoup de dégustations. Et je me suis dit, tiens, mais il y a un créneau, dégustation. Et donc, ça m'a permis de monter derrière un concept de bar à huîtres qui a assez bien marché pendant quelques années. Et puis voilà, après je me suis engueulé avec mon père, très fort parce que c'était un personnage merveilleux, mais c'était le boss, c'était un pater familias. Et un jour, il est arrivé, il m'a dit « j'ai décidé que ». Et ben, je lui ai dit « moi, il n'y a personne qui décide pour moi, c'est ou statu quo ou je m'en vais ». Il m'a dit « c'est moi le patron, si t'es pas content, tu te tires ». Je lui ai dit « tiens, voilà les clés, au revoir ». Et je suis parti. Et je suis parti, et là, j'ai remonté un bar à huîtres, puisque je savais faire que les huîtres, et je ne connaissais que ça. Et comme j'étais assez connu à Bordeaux, ce bar à huîtres a très bien marché. Je l'ai tenu pendant 2 ou 3 ans. Et puis après, je suis parti, j'ai croisé une dame qui m'a dit « je pars aux Antilles », et je lui ai dit « je pars avec toi ». Voilà, et donc je suis parti à la Martinique. Là, j'ai fait 2 ans et quelques à la Martinique. J'ai bossé dans le Rhum, donc j'étais directeur commercial des Rhum Trois-Rivières. Mmh. Ce qui me passionnait, parce qu'en fait, le rhum à la Martinique, c'était comme les huîtres sur le bassin d'Arcachon. C'était vraiment le produit, c'est le produit du terroir, quoi, un des produits principaux de l'activité économique du pays. Et puis là, j'ai repris l'affaire que j'avais laissée à Bordeaux, que j'avais laissée en gérance. Je l'ai reprise parce qu'elle se cassait la gueule. Et puis là, une fois que j'étais reparti, bien après, j'en ai monté d'autres. J'ai monté Dijon, Paris, Bayonne, Biarritz, voilà. Puis après, j'ai continué à développer les activités d'huîtres. Donc, on avait à cette époque-là une activité en Bretagne, une activité au Cap Ferré, des bars à huîtres. Après, j'ai monté une grosse brasserie qui s'appelait le Port de la Lune, qui était une affaire splendide avec 2 copains à moi. Et puis après, il y a eu la crise de la souris en 2005. Alors, la crise de la souris, c'est pas la souris qui était ennuyée, c'était moi. En fait, on piquait les huîtres, on piquait les souris avec des extraits des pâtes au pancréas d'huîtres pour tester si les huîtres étaient toxiques. Et en fait, comme ce test était bidon, on a été fermé 2005, 2007, 2008, 2009, 2010. Oh. On était à peu près fermé tous les ans, comme on a eu la fermeture des huîtres cette année, comme le Covid. C'était l'équivalent du Covid, donc on ne pouvait plus vendre, on ne pouvait plus vendre une huître. Mais nous, quand on est dans la production, c'est pas parce qu'on vend pas que les travaux de production s'arrêtent. Donc toutes nos charges d'entreprise continuent à courir, mais on rentrait 0 de chiffre d'affaires. Donc je savais qu'on était mort. C'est là que j'ai fermé l'entreprise familiale. Donc suite à cette crise de 2005. Et d'ailleurs cette année, avec les problèmes qu'il y a eu sur les huîtres, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont flancher, voilà. Et puis, donc là, je savais que mon entreprise était morte avec ce test de la souris. Donc, j'ai préparé la disparition de l'entreprise familiale, donc celle dont j'ai mis la clé sous la porte, et j'ai préparé la reprise avec 2 partenaires de l'entreprise. Donc, ma liquidation a été prononcée le 31 mai 2008, et les parcs de l'Impératrice sont démarrés le 1er juin 2008. C'est-à-dire, on a fermé la boîte à minuit et on a ouvert l'autre à 8 heures du matin.
Ah oui, ok.
On a assuré le transfert, donc de c'était bien planifié. J'ai fait 3 ans de sortie de l'activité. D'accord. Pour faire une reprise de boîte. Et depuis aujourd'hui, ça fait 2008-2024, ça fait 16 ans que les parcs de l'Impératrice sont une entreprise qui marche pas mal. Voilà.
D'accord, vous avez quand même bien rebondi tout en préparant bien la sortie.
Ouais, j'ai rebondi, j'avais perdu des plumes dans les rebonds, hein, si vous le savez, hein, chaud. Mais ouais. Bon, pour ça que je vous dis, plein d'argent n'est pas mortel.
Ouais.
Et je pense que si en plus on trouve du plaisir à ce qu'on fait, c'est une sorte de rémunération. Vraiment, je pense que la joie qu'on trouve à faire quelque chose, Ça compense ce qu'on ne gagne pas financièrement. Vous savez, quand j'étais à l'armée, on nous faisait faire du footing tous les matins. Moi, j'avais horreur de courir. Je jouais au rugby. J'étais sportif, mais pour moi, courir, c'était pour attraper quelqu'un, attraper un ballon. Enfin, mais courir, je trouvais ça d'une connerie phénoménale. Et donc, je m'étais trouvé des raccourcis pour pas me faire chier à faire le cross tous les matins. Et je n'aimais pas courir. Pour moi, c'était un calvaire. C'était une souffrance. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une souffrance. Et puis, à 40 ans, je me suis mis à courir. Parce qu'à un moment, je grossissais, je maigrissais, donc à force de faire des régimes, j'avais perdu 600 tonnes que j'avais regagnées. Et je me suis dit, bon, tu faisais beaucoup de sport, il n'y a qu'un truc, c'est de faire du sport. Donc tous les soirs, je me suis calé dans une salle de gym et tous les soirs, j'allais faire une heure d'exercice physique. Et j'ai commencé sur les tapis roulants et j'ai commencé à courir. Et en fait, j'ai pris le goût de la course et j'ai commencé à trouver de l'intérêt à la course. Et ce qui, à 20 ans, me faisait gerber, et à 40 ans, ça me faisait plaisir. Et comme quoi, c'est pas l'action qui compte, c'est la manière dont on la vit. Et que si dans une entreprise, on est heureux, on se réalise, on se fait plaisir, on est capable de gagner peu. Il y a plein de mecs qui ont monté des entreprises, qui gagnaient peu d'argent, mais qui s'éclataient parce qu'ils allaient au bout de ses rêves. Ils allaient au bout de leurs rêves. Et d'aller au bout de ses rêves, c'est beaucoup mieux que de gagner au loto. Voilà. Parce que quelqu'un qui gagne au loto, le gros lot, ne fait pas du mec qui a gagné au loto un prix Nobel. Hein. Voilà, il peut être con comme une malle et milliardaire du jour au lendemain. Hein. Donc c'est pas un référentiel.
Et qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui ?
Tout.
Tout.
Tout. Une rencontre. Je suis content d'être avec vous.
Ouais.
Là, je passe un très joli moment avec vous. Et je vous remercie d'ailleurs. non, mais c'est vrai. C'est une surprise. Mais pour moi, l'aventure et la surprise sont au coin du chemin. Moi, je regarde toujours le monde avec un émerveillement absolu. Aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce que je veux, parce que j'espère toujours que l'instant, que le moment va me surprendre, que les gens vont me surprendre. Par contre, je sais bien ce que je veux plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très déterminé sur ce que je ne veux pas, mais ce que je veux, j'espère toujours être surpris et et garder un regard d'enfant sur tout. Et avoir la surprise à chaque coin de rue. Mais je suis très déterminé quand je ne veux pas. C'est-à-dire que pour moi, le fait de dire je n'ai pas envie, c'est la meilleure des explications pour ne pas faire. Parce que si on fait quelque chose sans envie, on va le faire mal. Voilà. Et que je me suis aperçu depuis tout petit que quand un truc part à la merde, ça finit à la merde. Alors autant ne pas y aller. Autant clôturer de suite, dire non, c'est bon, on s'arrête.
Et quel est votre rapport aux relations amicales, à l'amour, aux autres, comme ça? Comment c'est dans votre vie?
Mais je pense qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Alors il y a tout. J'ai une phrase que j'ai adorée un jour, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit. Il a dit, il n'est d'amitié que d'instant. Moi, je crois qu'il y a des instants de partage, il y a des instants d'émotion avec des gens qui resteront gravés jamais dans notre mémoire familiale, je vais dire, dans notre mémoire personnelle. Et que de ces instants est né ce qu'on peut qualifier d'amitié. C'est-à-dire que en permanence, on pense à cette personne ou à cette chose-là. Avec amitié, avec amour, avec envie, avec désir, peu importe. Mais il n'y a pas de quotidien dedans. Donc, il y a des gens pour qui l'amitié, il faut que ça soit un quotidien, qu'on se voit tous les jours, qu'on se parle tous les jours. Je crois pas. Je crois que c'est l'habitude. C'est pas de l'amitié. D'ailleurs, des fois, quand ça s'arrête, parce qu'il y a des bouleversements de vie, on s'aperçoit que sur le groupe de 10, il y en a peut-être un qui nous manque, et puis les autres... Les autres, ils passent aux abonnés absents. On les voit pas, mais ils nous manquent pas. Non, je crois que je crois vraiment que la relation et l'amitié, c'est les instants qu'on partage. C'est pas du tout une sorte de répétition permanente, de déclaration d'affection. Non, c'est voilà. On partage quelque chose dans un domaine et on le partage fort. Mais pour moi, c'est une amitié. C'est voilà. Et puis après, il y a des gens. Alors moi, après, je classe les gens avec ceux avec qui j'irai à la guerre et puis ceux avec qui j'irai pas. Et il y a des gens, s'ils me disaient, on va se battre là, je sais que je vais pas aller avec eux parce que je sais que je vais me battre tout seul. Quoi. Il y a des techniciens. Il y a des gens qui ont pas de burnes, quoi. Les gens qui n'ont pas de burnes, ça se sent et qui sont prêts à vous envoyer au combat n'importe quoi. Alors si je suis assez con pour y aller, parce que j'aurais pas manqué de discernement sur l'individu qui m'aura envoyé, faut qu'il espère qu'un truc, c'est que je revienne pas. Parce que je vais être dangereux pour lui.
Et les déceptions, justement.
Les déceptions, les déceptions, on oublie.
Ouais.
La déception, ça sert à... Alors, je pars du principe que les gens ne nous trompent pas. On se trompe sur les gens. C'est nous qui nous trompons. Vous faites un recrutement. Vous avez au début 20 mecs. Sur les 20, vous en sélectionnez 6, 8 ou 10. Sur les 10, faites une shortlist de 5. Et puis dans ces 5, vous les voyez. Et en fait, il n'y en a aucun qui correspond 100% à ce que vous demandez. Il correspond à 80, 90, 75. Sauf que vous avez besoin de quelqu'un. Il faut absolument que vous ayez quelqu'un. Donc, vous vous contentez, sciemment, de 80% de ce dont vous avez besoin, mais en pensant intérieurement que de toute manière, vous allez arriver à faire 100%, parce que je vais arriver à le... Non, en fait, l'individu, il est comme il est. Sauf qu'on l'a recruté en espérant qu'on allait, en espérant nous, qu'on allait en faire autre chose, ou l'amener ailleurs, et que lui, même s'il nous donne tout, il pourra pas aller ailleurs. Parce que si un mec court pas le 100 mètres en 11 secondes, s'il le court en 15 secondes, on va pouvoir l'entraîner beaucoup, il courra pas en 11 secondes. Donc, et en fait, on peut se prendre le bouilli en disant, mais le mec, il répond pas au bout d'un moment à la demande. Mais s'il répond pas à la demande, c'est notre faute. C'est parce qu'on l'a recruté alors qu'il était à 80% de ce dont on avait besoin. Mais qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Et que donc, on a pris celui-là en dépit. Mais c'est un choix que nous, on a fait. C'est pas lui qui l'a fait. Et donc, j'ai pas le droit d'en vouloir à ce gars de pas avoir la compétence 100%, puisque c'est moi qui l'ai recruté à 75. Et donc, moi, je ne suis... Ben, j'ai lu une jolie phrase l'autre jour, un peu courte, qui disait « L'homme faible se venge, l'homme fort pardonne, et l'homme sage oublie. » Moi, j'ai tendance à oublier. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois que c'est passé, quoi. C'est fini. On va pas réécrire l'histoire. Il faut pas essayer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière. Il y a une très belle phrase du Dalai Lama qui dit, les hommes espèrent leur avenir, regrettent leur passé et oublient de vivre le présent. Ils vivent en ayant peur de mourir et ils meurent en ayant oublié de vivre. Alors moi, vous pouvez pas me la coller, celle-là. Ça ne colle pas du tout à ma vie. Ça n'arrivera jamais. Voilà.
Vous avez l'air de vachement suivre vos intuitions, quoi. Vous êtes vachement dans le, voilà, vous savez, bon, la vie, l'expérience vous a amené à être très déterminé sur ce que vous voulez plus.
Mais une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut plus, la vie est vachement plus simple.
Ouais.
Parce que, mais je disais à mes fils, vous voulez, d'accord. Mais si vous voulez être un virtuose, au violon, il faut que tous les matins, vous fassiez des gammes pendant 4 heures pour améliorer votre technique et peut-être pouvoir penser à accéder un jour à un certain niveau musical. Peut-être. Mais si vous ne voulez pas faire 4 heures de travail fondamental tous les matins, oubliez, n'espérez même pas rentrer dans cet univers-là. Il n'y aura pas votre place. Donc très souvent, il y a des gens qui disent « j'aimerais », sans forcément appréhender les contraintes de ce que donnerait leur choix, et puis que s'ils réfléchissent bien à leur choix, ils se disent « non, mais comme ça, je veux pas », enfin, comme la partie que va m'imposer ce choix, je n'en veux pas, mais ce choix, c'est même plus la peine qu'ils y pensent. Et que je pense que pour faire des gens qui ne soient pas frustrés, et je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent plus à ce qu'ils ne veulent pas, pour commencer, plutôt que de réfléchir à ce qu'ils aimeraient, parce qu'on aimerait, si vous me dites, t'aimerais quoi? Moi, j'aime être chef d'orchestre et diriger un orchestre symphonique, voilà, j'adorerais ça, j'aimerais être pilote de chasse, j'aimerais être pilote d'hélicoptère, j'aimerais plein de trucs, sauf que c'est pas la peine de se prendre le chou, ça sert à rien, ça ne sera pas, donc, Il faut, j'aime l'impossible, mais il faut réfléchir au plausible, voilà, et pas se perdre quand j'étais à la Martinique, on appelait ça des plans Caraïbes. Il y a toujours des mecs qui avaient des plans extraordinaires, et puis à la fin, il y avait toujours un lézard, ça marchait pas, quoi. C'était, voilà.
Quels sont vos modèles, vous? C'est qui les personnes qui vous inspirent? Vous avez des gens comme ça où vous dites...
Depuis tout petit, je me suis construit avec des modèles.
Ouais.
C'est-à-dire que je croisais des gens disant, tiens, quand j'aurai leur âge, j'aimerais quasiment être lui, tu vois, ou comme lui. Et en fait, ça c'est comme le recrutement. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne juge qu'avec le regard qu'on a à un instant T, on juge la personne aussi à un instant T. Mais le problème, c'est qu'on avance, on court pas tous à la même vitesse, on n'évolue pas tous de la même manière. Et puis que très souvent, il y a des gens, on se dit, ah ben j'aimerais être, comme on est en dessous, on se dit, ah ben j'aimerais être lui. Et puis à un moment, on le dépasse et on se dit, oh putain, j'ai eu de la chance de ne pas être lui, quoi. Donc je crois qu'on se construit tous un peu comme ça, avec des modèles quand on est gamin. Voilà, il y avait quand j'étais ado, il y avait des mecs qui me faisaient rêver parce qu'ils avaient une mobylette mal agutie, ils avaient des pantalons pattes d'éléphant habillés comme les mecs modernes, ils avaient les cheveux longs, ils plaisaient aux filles parce qu'ils étaient décalés. Et je me dis, ah putain, j'aimerais être comme lui, mais j'avais 11 ans. Et puis quand je suis arrivé à 15 ans, j'ai dit, oh, j'ai eu du bol de pas être comme lui, quoi. Voilà, non, et puis après, il y a des gens qui m'ont marqué par leur fait, ce qui m'a marqué le plus, voilà, c'est que chez tous les grands, toutes les personnes, et j'ai eu la chance, c'est une chance, de croiser des gens extraordinaires. Et ce qui m'a le plus marqué chez tous ces gens-là, c'est l'humilité. Tous les grands sont des gens humbles. Ils sont humbles, ils sont accessibles, ils sont simples, ils transmettent avec grand plaisir. Et voilà, c'est leur marque, quoi, l'humilité. Et dès qu'un mec est pas humble, à éviter. Vous emmerdez même pas avec. Passez votre route.
Ouais, on part pas à la guerre avec, quoi.
Ah non, bah ça, c'est sûr.
Vous avez parlé de chance.
Oui, la chance existe. La chance existe. Je pense que si on n'ose pas, on ne sera jamais confronté à la chance ou à la malchance. Et je crois que les deux existent, chance et malchance. Mais pour les croiser, il faut se mettre en situation de prendre le risque de les croiser. C'est-à-dire que si c'est le mec qui dit « Mon Dieu, j'ai jamais gagné au loto », et la voix de Dieu lui dit « Mais il faudrait que tu joues ». Mais voilà, je pense que pour être confronté à la chance, à la réussite ou à l'échec, il faut essayer. Et que si on n'essaye pas, effectivement, on est à l'abri des emmerdes, mais on est à l'abri de l'émotion. Et pour moi, une des choses les plus importantes du monde, c'est l'émotion. Parce que vivre sans émotion, c'est bouffer un truc totalement fade, insipide et qui n'a aucun goût, donc ça m'intéresse pas. Alors la chance, oui, je pense que la chance existe, et moi je pense que parfois on est au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes, et que voilà, et que alors bien sûr qu'on s'est mis au bon endroit, bien sûr qu'on a osé aller avec les bonnes personnes ou les mauvaises personnes, bien sûr qu'on a osé à ce moment-là y aller, donc il y a tout un tas de facteurs. Mais moi, j'ai ouvert une affaire en 82 de mémoire. Je m'étais engueulé avec mon père, donc j'avais vraiment plus un rond. J'étais à la rue, mais quand je dis plus un rond, plus un rond. Et je vois un bail à louer que je loue à la course à une vieille dame. Je lui file un chèque de 50 000 balles que je n'ai pas. Je vais voir mon banquier à l'époque, qui était un mec génial, qui me dit, et je lui dis, écoute, où je suis ruiné, où j'ai gagné un fonds de commerce que j'ai pas payé. Il me dit, mais bon, t'as tiré 50 000. Voilà, je lui dis, où tu m'as fait gagner 500 000 balles, où je suis interdit bancaire. Et il me dit, bah, écoute, considère que t'as gagné 500 000 balles et que je t'accorde en plus, tu peux tirer 10 000 de plus. Voilà, plutôt extraordinairement sympathique. Et donc, j'ouvre cette affaire donc sans un rond, avec mes 15 000 balles de découvert. Et je démarre cette affaire et les premiers mois, je cartonne plein pot. Mais vraiment plein pot. Premier mois, je cartonne. Deuxième mois, je cartonne. Troisième mois, je cartonne. Je suis à l'équivalent de 250 000 euros à l'époque, c'est des francs, mais l'équivalent de 250 000 euros de trésorerie dans ma boîte au bout de 3 mois. Et je commence à payer mes fournisseurs, puisqu'à l'époque, on arrivait à payer les fournisseurs à 90 jours. Donc, Et là, je monte un crédit bancaire qu'on me fait, bien entendu, puisque c'est par rapport à ce que tourne ma boîte, c'est ridicule ce que je demande. Et donc, tout se passe bien. Voilà. Vraiment, ça se déroule et je joue, j'ose et ça marche. Et comme ça marche, tout va bien. L'année d'après, à Bordeaux, il fait moins 22 ou moins 23 degrés. Et là, je fais pas 80 000 par mois. Là, je fais 1 000 par mois. Eh bien, si j'avais démarré l'année d'après, les mêmes compétences, les mêmes moyens, tout pareil. La température qui était juste inférieure de 35 degrés à ce que c'était l'année d'avant, eh bien, j'aurais plongé. Enfin, j'aurais probablement plongé. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas moi qui ai décidé de la météo. Voilà. Et donc, la chance, je pense que la chance et la malchance existent. Mais après, il faut aller solliciter les deux. C'est-à-dire que pour solliciter, il faut oser. Celui qui n'ose pas, c'est sûr qu'il ne sera jamais... On en revient à l'orthodoxie du début. Si on ne s'égare pas, si on s'égare pas, on ne risque pas de découvrir des endroits merveilleux et des gens merveilleux.
Merci beaucoup, Joël. Est-ce que pour cette fin d'échange, vous avez... autre chose dont vous voulez parler, qu'on n'a pas abordé là dans cet échange ensemble aujourd'hui?
Non. Regardez le livre de la jungle, il en faut peu pour être vraiment très peu, voilà. Écoutez-le, c'est exactement ça.
Ah, je vais le regarder avec mes filles. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Voilà. C'est un de vos films fétiches?
Non, mais c'est une de mes chansons fétiches, préférée, peu pour être heureux. Je pense que c'est vrai. Ouais.
Vous avez des films ou des bouquins qui vous
ont... Alors, mon bouquin fétiche, c'est un bouquin qui s'appelle Sauveterre de Jean Lartégui. Il y a un livre qui a été écrit en 1965. Okay. Jean Lartégui était un mec c'est un auteur qui, à mon avis, n'a pas été aimé parce que je pense qu'il était un peu OAS, un peu connoté extrême droite, pro-militaire, enfin, c'est vrai, mais qui a écrit un bouquin qui s'appelle Sauveterre qui est merveilleux. Je pense que c'est le seul, enfin, il a écrit Les Centurions, Les Mercenaires, donc c'était ces périodes après-guerre où il y avait une littérature de guerre un peu forte. Et ce livre, Sauveterre, c'est très beau. C'est des destins croisés de gens complètement différents, donc vraiment très beau, très inspirant. Après, j'adore Sapiens qui est un bouquin qui décrypte un peu les sociologies diverses. J'ai les œuvres complètes d'Albert Londres, de qui était un immense journaliste dans les années 1920-1930, qui a écrit des trucs fabuleux et qui sont très intéressants à lire aujourd'hui parce que ça remet les choses en perspective, et chose qu'on n'a pas toujours parce qu'aujourd'hui on a une culture du zapping. En fait, parce qu'on a vu les informations avant-hier, on croit qu'on connaît l'histoire de France. Enfin, c'est à peu près... alors que... Ça évolue beaucoup plus doucement que ça. Voilà, et puis non, mais j'aime la musique, le cinéma, le film qui m'a le plus bouleversé, c'est Voyage au bout de l'enfer. Après, Vol au-dessus d'un nid de coucou, m'a beaucoup remué. La musique, j'adore le jazz et le classique, donc il y en a vraiment... Beaucoup, et puis après, en chanteur affectif, mais il y a ceux que j'aime parce que je les connais, c'est Jean-Louis Aubert, c'est Mathieu Chédid, voilà, qui sont, mais je sais même pas si j'aime, c'est nous, donc c'est eux que j'aime. Donc,
Mathieu Chédid, je l'ai vu 4-5 fois, je pense, en concert.
Je pense que c'est un des plus grands guitaristes du monde.
Ah, c'est folie.
Il est extraordinaire.
Là, sur le plan des émotions, là, du ressenti, c'est fort. Hein.
Mathieu, c'est un mec immensément doux, qui est en recherche permanente du mieux, qui est vraiment, qui aime la philosophie, qui aime le... Mais pas quand il a sa guitare, c'est un loup.
C'est incroyable.
Il est fabuleux.
Ouais, c'est magnifique. Ceux qui n'ont pas encore vu en concert, c'est très puissant et moi j'y vais pour sa musique, mais j'y vais surtout pour ressentir.
C'est un showman extraordinaire, c'est fou, c'est show.
Ouais.
Et puis il y a une guitare, c'est
débattre. Ouais. Est-ce que vous avez des projets là pour cette année? à nous partager?
Non, 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 non. J'ai des émissions de télé qui passent sur France 3 le dimanche, je crois.
Ouais. Ils sont venus vous voir en haut sur le bassin?
Ouais. En fait, c'est une émission où j'invite des gens. Ça passe sur France 3 Aquitaine ou sur Noah, qui est la chaîne. Je sais pas comment ça s'appelle. Les chaînes, comment monter les chaînes, je sais pas.
Ok.
Et sur France 3 Aquitaine. Ça s'appelle Chez Joël. C'est très facile à faire.
Ah oui. Mais c'est votre émission, alors?
Ouais. Et je fais une émission où j'invite une star, nationale. Donc là, l'émission qui va passer, j'ai eu Philippe Laville, qui est venu. Et je le présente à des gens de chez nous, de la Grande Aquitaine, qui font des trucs un peu originaux, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient industriels, qu'ils soient artisans. Mais des gens, voilà. J'ai une femme que j'aime beaucoup, qui a monté une association qui s'appelle Life is Rose, qui s'occupe du traitement social des gens qui ont eu le cancer et qui sont un peu désocialisés. Je vous la fais simple. Globalement, une nana qui a le cancer, son mari se casse, elle perd son boulot et elle se retrouve dans la merde.
Voilà. D'accord.
Enfin, pour faire simple.
Ouais.
C'est ce qui n'est pas forcément le cas, mais hypothèse, ça se passe comme ça. Elle va se retrouver en lourde difficulté. Donc, cette dame, donc Nathalie Lautis-Savario, a monté une association qui s'appelle Life is Rose et qui s'occupe de leur trouver des apparts, de leur filer un coup de main, de leur faire des joints financiers pour qu'elle... qui en plus de combattre la maladie, elle ne combatte pas la vie sociale, quoi. Voilà. C'est ça.
Oui, donc, c'est voilà. Un gros sujet, ça.
On reçoit donc des gens comme ça, une jeune femme qui avait vous savez que les gens qui font pondre les poules pondeuses, quand elles baissent en rendement, on les envoie à l'abattoir. C'est comme ça, c'est la règle. Et en fait, une nana qui a monté une association qui récupère les poules pondeuses qui ont plus de rendement, et qui les fourgue dans des familles à droite à gauche, donc qui les recycle, voilà.
Ok.
Donc après, j'ai reçu un porcelainier de Limoges qui a réussi à faire entrer la porcelaine dans les écoles, qui est pour remplacer le plastique. J'ai reçu Justine Dupont, qui est une surfeuse qui surfe les plus grandes vagues, puisqu'elle surfe à Nazaré, au Portugal, où les vagues font 32 mètres de haut. Donc, je sais pas si vous imaginez le truc.
J'imagine, mais je pense qu'on n'imagine pas vraiment tant que...
Voilà. Et puis après, j'ai reçu Chico des Gypsy King, j'ai reçu Gaëtan Roussel de Louise Attac, qui est un mec merveilleux. Voilà, après, donc, dans cette émission, on reçoit ça. Et puis, en fait, l'idée, c'est quasiment un repas de copains avec un chef cuisinier du coin un peu connu. Donc, il va nous travailler des produits, il nous parle des produits du coin. Ensuite, il nous les cuisine, donc il nous parle de son plat. Et en fait, il nous sert à table, on est 4 ou 5. Et en fait, c'est un repas de copains où des gens... C'est comme si on recevait un ami, et que, enfin, ou qu'on recevait une table d'amis et qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils se présentent les uns les autres. Quoi, voilà. C'est comme ça se passe dans la vraie vie.
Ouais.
Voilà. C'est ça, l'émission, c'est ça.
Ouais, sympa, sympa. Et bon, on ira voir ça. Super. Donc là, vous avez des potes célèbres maintenant, mais vous les prenez à votre table comme si c'était moi, quoi.
Mais c'est exactement ça. Mais si vous passez d'ailleurs, on mangera à ma table. Voilà.
Mais c'est une invitation, Joël.
Mais vous, de sorte. Non, mais si vous passez, alors moi, j'ai jamais d'invitation. Alors, je suis incapable. Vous savez que si on me dit, on dîne ensemble en 3 semaines, je dis à la personne, oublie, ça n'arrivera pas.
Ouais.
Parce que j'ai l'impression d'avoir un collier
ouais.
jusqu'à ce repas. Et qu'en fait, comme je vous ai dit que l'aventure est au coin du chemin, j'aime être libre jusqu'au coin du chemin. Et très souvent, j'ai des copains que je n'appelle pas quand je vais à Paris ou que je vais ailleurs. Mais là, je suis venu à Rennes. J'étais dans la voiture avant d'arriver à Rennes la veille au soir. J'ai appelé 2 copains de Rennes en disant, voilà, je suis à Rennes ce soir. Si vous avez rien, on dîne ensemble.
Ouais.
Voilà. Ça, j'aime, c'est que spontané. Si j'avais dit à mon copain 3 semaines avant, je viens à Rennes tel jour, je lui foutais la pression. Parce que si ça se trouve, ce soir-là, il n'aurait pas pu. Mais que comme je venais qu'une fois dans la Rennes, hein, j'aurais créé une merde et c'était pas terrible. Alors que là, on s'est retrouvés les 2 que j'ai appelés pouvaient, on a bouffé tous les 3 ensemble, c'était top. Voilà.
Ouais. Bon, bah, si je passe dans le coin, je vous...
Eh ben, voilà. Ouais. Vous m'appelez, vous avez tout maintenant. Vous avez mon téléphone. Vous avez...
Eh ben alors, j'ai tout. J'ai le mail, j'ai tout.
Voilà, c'est parfait.
Eh ben écoutez, merci beaucoup. C'était génial. Vraiment, je vous l'ai dit, hein, je me sens vraiment privilégiée d'avoir cet échange avec vous, dans le sens où en fait, j'ai osé
mais
vous contacter.
Mais il faut toujours oser.
Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis vraiment trop contente d'avoir pu parler avec vous. Et franchement, déjà que je suis du genre à me dire oui, tout est possible, et puis si on a envie, on le fait, et puis ouais, on verra bien. Mais alors là, franchement, d'avoir pu parler avec vous, je me dis, ça ouvre des vannes.
Hein. Eh bien, tant mieux.
Franchement, ça ouvre des vannes. Donc voilà, merci beaucoup, Joël.
Mais merci et à très vite. Et bonne chance.
Merci.
Ciao. Salut.
Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous pouvez suivre toutes les aventures de Junko sur Instagram, sur le compte junko-coaching. À très bientôt !